Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité en français sur la radio Nzamba Gatika Kawe. Le calvaire des réfugiés burundais en Tanzanie est loin d'être fini. Depuis mercredi, des arrestations ciblant d'anciens réfugiés de Mtendeli et la destruction des champs de bananiers sont signalées au camp de Nduta. Cela s'ajoute à la privation du droit d'exercer des activités génératrices de revenus depuis près d'une année. Les incursions de militaires burundais en RDC se poursuivent. Un renfort de moins 600 soldats serait parti hier vers l'est de ce pays. Objectif, en découdre avec les mouvements rebelles. Bilan largement négatif du gouvernement du Burundi en matière de lutte contre le Covid-19 pour l'an 2021. Un expert en santé publique dénonce le manque de volonté de la part des autorités burundaises dans la lutte contre cette pandémie. Voilà pour les titres.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue à toutes et à tous. Des centaines de militaires burundais ont franchi la frontière burundo-congolaise dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Ils ont traversé la Rusizi en différentes équipes renforcées par deux jeunes du parti CNDD-FDD au pouvoir. Des sources militaires indiquent qu'ils rejoignent plus de 300 autres militaires qui étaient présents sur le sol congolais. Objectif, démanteler les groupes rebelles burundais qui sont basés à l'est de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Parfait Mudasigana.
Des informations que la rédaction de la radio Nzamba Gatika Kawe détient des sources au sein de l'armée burundaise révèlent que la première équipe a traversé la rivière Rusizi vers 2h du matin et la dernière vers 4h. Les mêmes sources font savoir que ces militaires sont passés par différents endroits. La première compagnie est passée par la Rukoko, la seconde à Buganda sur la 6e transversale et la 3e à Rugombo dans la localité de Marambo via Karurama sur la 3e transversale. Ces militaires sont venus du bataillon police militaire sous le commandement du lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa, le 112e bataillon d'infanterie Camp Chibitoke sous le commandement du lieutenant-colonel Désiré Nihabose et quelques militaires du 111e bataillon Camp Gatumba. Selon toujours les mêmes sources, d'autres militaires ont été choisis individuellement dans des unités diverses. Certains d'entre eux ne se reconnaissent même pas. L'effectif qui a traversé la frontière étant de plus de 600 militaires qui composent un bataillon organique de combat et des immunéacoulés dont leur nombre avoisine 300. Ils ont été rassemblés dans 6 provinces, continuent les mêmes sources. Des sources militaires indiquent qu'ils partent pour renforcer les militaires du 212e bataillon sous le commandement du lieutenant-colonel Nyandwi qui avait été fusillé par les militaires de l'armée congolaise appuyés par des forces de la MONUSCO. Ces combats avec les militaires du 212e bataillon qui sont basés à Kiliba-Ondes, Sangé et Amutarure ont eu lieu lundi et mardi de la semaine en cours, continuent les mêmes sources. Des corps d'une trentaine de militaires burundais qui ont péri dans des combats seraient rapatriés dans les conteneurs frigorifiques du bataillon d'essai passive dit Guantanamo. Ils ont été amenés à cet endroit par 3 véhicules du 11e bataillon blindé, 111e et 212e bataillon la nuit de mardi dernier. La rédaction de la radio Nzamba Gatika Kawe a tenté de joindre par téléphone le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, pour éclairer l'opinion sur cette incursion des militaires burundais sur le sol congolais, mais sans succès.
Inquiétude chez les réfugiés burundais se trouvant au camp de Nduta en Tanzanie. C'est suite aux arrestations nocturnes qui s'observent au sein de ce camp. Les responsables de ce camp sont accusés d'être à l'origine de ces arrestations. Ces réfugiés affirment que les personnes ciblées sont les réfugiés récemment venus du camp de Mutendeli. Les détails avec Benny Axelakana.
Selon des sources concordantes émanant du canton d'Outa, il s'observe des arrestations nocturnes par les agents de la police tanzanienne en collaboration avec certains agents chargés de la sécurité au sein de ce camp. Les réfugiés qui furent responsables au camp de Mutendeli sont les plus visés dans ces arrestations. Selon les mêmes sources, ces réfugiés sont accusés de ne pas sensibiliser les autres à rentrer et aussi de soutenir des groupes rebelles.
Parmi les réfugiés qui étaient des responsables dans le camp de Mutendeli, la plupart d'eux ont été convoqués. Il y a entre autres Chimilimana Innocent, une maman du nom de Chimilimana Consolate. Nous trouvons tout cela comme une façon de nous faire peur et nous faire rentrer indépendamment de notre volonté.
Ces réfugiés demandent à la communauté internationale d'assurer leur sécurité.
Nous demandons à la communauté internationale de nous sortir de ce calvaire. Nous vivons dans une situation inquiétante.
Vous saurez que le matin de ce jeudi, les chargés de la sécurité du camp communément appelé Basungusungu ont détruit les champs de ces réfugiés. Les petits marchés qui servaient de gagne-pain pour certains réfugiés ont été aussi fermés. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore réussi à joindre le responsable du camp d'Ondoutar pour plus d'informations sur ce que ces réfugiés qualifient de persécution.
Les défenseurs des droits humains dénoncent ce comportement de l'administration tanzanienne. Vital Chimilimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, rappelle aux autorités tanzaniennes que la Tanzanie est signataire de la Convention en matière de protection des réfugiés. On écoute Vital Chimilimana.
Quand nous avons appris l'information relative à la destruction méchante des champs des réfugiés burundais à Nyarugusu, nous n'avons pas directement connu les auteurs de ces crimes, mais davantage nous avons su que ces crimes abominables se sont étendus à d'autres camps, y compris dans le camp des réfugiés d'Onduta, où des activités ignobles similaires sont commises par les jeunes Basungusungu sous la supervision des éléments de la police tanzanienne. Maintenant, c'est établi que ce sont des agents de l'État tanzanien qui organisent et supervisent ces activités de destruction méchante des récoltes et champs appartenant aux réfugiés pour les forcer à rentrer au Burundi, alors que la République unie de Tanzanie n'est pas sans connaître la situation de violation continue des droits de l'homme, de terreur et d'autres crimes qui continuent dans la République du Burundi. Ce que nous demandons, c'est au président de la République unie de Tanzanie, à la personne de Madame Samia Suluhu, de prendre ses responsabilités, parce que c'est lui qui est le garant de la paix, de la sécurité, de la tranquillité et du respect des droits de l'homme sur tout l'ensemble du territoire de la République unie de Tanzanie. Il est de sa responsabilité d'interdire ou de veiller à ce que ces violations des droits de l'homme s'arrêtent. Au cas contraire, la République unie de Tanzanie sera traînée devant les juridictions internationales pour être condamnée pour ses manquements en matière de protection des réfugiés burundais établis sur son territoire.
Pourquoi faut-il se faire vacciner ? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Suite de l'actualité sur la radio Inzamba, l'inaction, la confusion et les contradictions dans la lutte contre le Covid-19, voilà ce qui aura le plus caractérisé le domaine de la santé au Burundi au cours de l'année 2021, selon une analyse de Com Konakuze. Cet expert en santé publique regrette que la politique du gouvernement visant à mettre en place des hôpitaux dans toutes les communes du pays soit allée au ralenti. On l'écoute.
Il y avait une politique de prévoir des hôpitaux au niveau des communes. On voit que le projet marche au ralenti. Il y a eu une pénurie des médicaments, surtout les médicaments de spécialité. Et on a vu aussi une hausse des prix de consultation, que ce soit dans le privé et de plus de 30%, en évoquant bien évidemment une hausse des importations des produits pharmaceutiques ou du matériel médical. Sur le plan de riposte à la lutte contre la COVID-19, là on a vu beaucoup de cacophonie et aussi une typologie des réactions contradictoires aboutissant à une confusion totale dans la lutte de cette pandémie dans le pays. Et je peux vous citer ici que normalement le lien humanitaire de lutte contre la pandémie de la COVID-19 doit être beaucoup plus local, national, avec des résultats qui doivent être collectifs au niveau mondial. Alors, le pays a accepté d'abord à nier beaucoup la pandémie sur le plan politique, et puis on a pu vérifier que le pays voulait bien évidemment nier cette pandémie pour permettre au passage des élections présidentielles.
Le manque de rigueur dans la riposte contre le COVID-19 risque d'avoir des conséquences fâcheuses sur le Burundi, qui peut se voir écarté de la scène internationale, selon toujours comme Konakuze. Il propose de protéger la population par la vaccination réelle et concrète.
La pandémie continue à frapper fort la population, et puis on a déjà vu en plus que le pays a accepté l'entrée des vaccins, des donations, mais n'a toujours pas lancé aucune campagne de vaccination. Parce que lancer une campagne de vaccination veut dire que le gouvernement prend le devant et s'implique beaucoup dans la mobilisation, dans l'organisation, et aussi avoir un budget, former le personnel, distribuer équitablement avec des données géostatistiques de distribution de ces produits, de ces vaccins et du matériel de vaccination, en plus du personnel qualifié. Et cela n'a pas été vu durant cette année dernière, depuis le début de l'entrée de ces vaccins en octobre dernier. Tout cela montre bien que du déni même qui mène au dilemme, à la désinformation de la population et à l'inaction de ce gouvernement, cela a montré bien que la COVID-19 continue à faire des ravages dans ce pays, doucement mais sûrement. À la fin, on verra que le pays restera le foyer d'infection et aussi la multiplication des variants parce que la population n'est pas protégée. Jusqu'à maintenant, c'est autour de 5000 qui ont pris au moins une dose de vaccin, ce qui est infiniment insuffisant. Cela montre qu'il y aura aussi des répercussions plus économiques et politiques que le pays ne pensait et essayait de minimiser ou de dissimuler en faisant un déni camouflé, alors que cette lutte n'est pas visible sur le terrain.
Dans la suite des bilans des réalisations pour l'an 2021, demain samedi, ce sera le tour du secteur des médias. Et puis, cette présentation à la presse ce vendredi de Martin Minani, surnommé Jacques Suleiman. Selon la police, cet homme est accusé d'avoir menti au président de la République. À travers un message téléphonique, il s'était confié au chef de l'État pour lui faire part d'un vol qu'il a subi. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a indiqué à la presse que l'enquête a démontré que cette personne a voulu escroquer Évariste Ndayishimiye, avec la complicité de deux autres personnes, dont une femme brigadier de police. Écoutez Pierre Moulkié.
Il y a un citoyen qui a transmis un message de dénonciation à son excellence le chef de l'État. Et malheureusement, un message qui était mensonger et qui impliquait un agent du service de renseignement. Le message disait que celui qui l'a envoyé avait été victime d'une escroquerie d'un 1 500 000 francs burundais qui lui aurait été volé par un Tanzanien et un agent du service de renseignement. Comme le message impliquait un agent du service de renseignement, le service a mené une enquête approfondie et a trouvé que le message était mensonger. Et comme il vous l'a dit lui-même, la personne, il n'y a pas eu d'escroquerie. et il n'a même pas rencontré ce Tanzanien. En fait, ce Tanzanien n'existait pas. Et puis, il n'a même pas été volé une somme d'argent. C'est lui qui avait adressé son message à son Excellence, le chef de l'État. Il s'appelle Minani Martin, alias Jacques Suleiman. Au niveau de l'enquête, on a trouvé que cette personne-là avait été approchée par un autre qui s'appelle Bigirimana Kelly. Lui-même avait été envoyé par une femme brigadière de police qui s'appelle Daikengul Kedivin, qui est en fait l'épouse de cet agent de renseignement avec qui elle était en conflit.
Du football, pour clore ce journal, 24 équipes nationales vont passer tout au moins à partir de ce dimanche au Cameroun pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte et le Sénégal sont favoris pour cette compétition. Les joueurs comme Mané, Salah, Aubameyang, Mahrez et Mendy sont les stars les plus attendues de cette compétition. Les détails avec Franck Kazé.
La Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce dimanche se jouera dans 6 stades. Le plus grand est celui d'Olembe de Yaoundé avec une capacité de 60 000 places. Ce stade abritera le match d'ouverture qui opposera le Cameroun, pays hôte, au Burkina Faso, ainsi que les matchs des demi-finales et la finale. Pour les matchs du Cameroun qui se joueront sur ce stade de Yaoundé, le nombre de supporters a été fixé à 80% et à 60% pour les autres stades, une décision dictée par la pandémie du Covid-19. Toujours en raison de cette pandémie, l'effectif des joueurs est passé de 23 à 28 pour pallier aux éventuels forfaits liés au Covid-19. Les favoris pour cette CAN sont le Cameroun, qui jouera devant son public et qui compte en son sein des joueurs professionnels de haut niveau, l'Algérie tenant du titre, le Sénégal, finaliste malheureux de la dernière édition, et l'Égypte, pays le plus titré en Afrique avec cette CAN. À côté de ces pays se trouvent des équipes qui sont également capables de créer la surprise. C'est entre autres le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Mali. La zone de la CECAFA est la moins représentée dans cette CAN, avec 2 équipes seulement, à savoir l'Éthiopie et le Soudan. En 2019, cette zone avait pourtant 4 équipes, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Pendant cette 33e édition, 2 pays participeront pour la première fois à cette compétition. Il s'agit de la Gambie et des îles Comores. Les stars qui évoluent dans nos grands clubs européens sont également attendus au Cameroun. Il y aura notamment Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon et d'Arsenal, Riyad Mahrez de l'Algérie et de Manchester City, Sadio Mané du Sénégal et de Liverpool, Mohamed Salah de l'Égypte et de Liverpool, ou encore le gardien Edouard Mendy du Sénégal et de Chelsea.
C'est par l'actualité sportive que se termine cette édition. Merci de l'avoir écoutée. Bon début de week-end à tous. Au revoir et à la prochaine.